Alors, c'est commencé. C'est difficile de parler ici en avant sans parler de choses que j'ai vécues avec mon ami Luc, parce que moi et Luc, on remonte à de longtemps, parce qu'on était ensemble dans Pouponnière, puis on a fait notre école ensemble, puis aujourd'hui, ben on est des amis sur le terrain de golf, puis à l'église, puis on... Mais, vous savez, il y avait quelque chose, Luc est venu au Seigneur un petit peu avant moi, et puis, à un moment donné, lorsque j'ai eu des questionnements, Luc, il m'a guidé, OK? Puis, je me souviens, le dernier soir, quand je restais accroché, je restais accroché au monde, là, puis j'avais entendu parler de toutes sortes de personnes, là, tu sais, qui étaient venues au Seigneur, puis qui avaient été rejetées par leur famille, qui avaient se débarrassé de tous leurs biens, qui avaient... En tout cas, il y avait un paquet de tiraillements que j'avais. Puis Luc m'a rassuré, il m'a dirigé vers un passage, et puis... Puis en fin de compte, lorsque j'ai arrivé chez nous, j'ai ouvert ma Bible, j'ai regardé ce que Luc avait dit, puis il dit « Ah, c'est tellement vrai, c'était vraiment ça que j'avais besoin d'entendre. » Puis là, à ce moment-là, avec la lecture de ce passage-là, bien, j'ai été capable de faire le pas, puis de décider de suivre le Seigneur. Après un bout de temps, j'ai regardé le passage qu'il m'avait montré. Ça ne parlait pas pantoute de ce qu'il disait. Mais par contre, à travers ce message-là, le Seigneur m'a montré ce que j'avais besoin d'entendre. Et puis, vous savez, des fois, quand on a une préoccupation, quand on a quelque chose qu'on se demande, quand on a une incertitude, je pense que la meilleure affaire, c'est d'aller vers la parole. Et puis, à travers de ça, à travers de la parole, le Seigneur va nous dire ce qu'on a besoin d'entendre. Bien... Aujourd'hui, je vais vous apporter un enseignement, et puis je dois vous dire que j'ai été pas mal occupé, puis j'ai pas eu le temps de monter un enseignement à partir de rien, là. Donc c'était quelque chose que j'ai trouvé, que j'ai adapté, que j'ai travaillé, et puis je pense que ça peut être bénéfique pour chacun de nous. Le titre, c'est « Comment vivre nos difficultés ». Donc, vous le voyez à l'écran. Ça va venir. Donc, ce matin, on va regarder un passage, et puis un passage de l'Écriture que vous connaissez ce passage-là. Et puis, vous allez voir qu'un petit peu comme qu'est-ce qui est arrivé, c'est que avec le sujet que je vais parler, ça ne sera pas nécessairement le passage que vous iriez voir. Et puis, comment vivre nos difficultés. Puis, il me semble que dans notre Église, il y a beaucoup de gens, dans notre Église, il y a des gens qui vivent des moments difficiles. Et puis, on peut dire tout simplement que la vie n'est pas facile, la vie est dure. Et puis, il peut y avoir diverses... On va retourner au début. Bon. OK. Donc, des petits problèmes techniques. Donc, dans notre Église, il y a beaucoup de gens, et puis je pense qu'on n'est personne qui est à l'épreuve, qu'on passe à un moment donné des temps difficiles. Okay? La vie n'est pas facile, la vie est dure. Et puis, ça peut être pour diverses causes. Ça peut être des problèmes de santé, ça peut être des problèmes financiers qu'on a. Ça peut être des relations familiales qui sont pas trop, trop faciles. Ça peut être des situations au travail. Donc, il y a toute une gamme de difficultés qui font que la vie quotidienne n'est pas facile. Puis, un peu comme la température, un peu comme le temps, il semble que le soleil ne brille pas tellement souvent. En fait, c'est plus souvent sombre que clair. Donc, ce matin, je n'ai pas de solution à tous nos problèmes, mais mon intention ce matin est simplement de diriger notre attention vers celui qui a les solutions et qui nous rappelle à nous confier... il nous appelle à nous confier en lui. Et puis, je voudrais que ce message en soit un qui puisse vous encourager dans les moments où vous allez avoir des difficultés dans la vie. Donc, c'est pourquoi je veux vous parler de comment nous vivons nos afflictions et nos difficultés. Et nous allons lire le passage de Romains 5, les versets 1 à 5. Et puis, vous savez, lorsqu'on trouve un enseignement ou qu'on trouve quelque chose, on dirait que notre barème pour savoir, notre baromètre pour savoir qu'est-ce qui, si c'est correct, ben, je suis allé voir ce que John MacArthur disait à propos de ce passage-là. Et puis, c'est un passage que lui, il se sert pour son sujet préféré, qui est la sécurité éternelle. Donc, je ne vous parlerai pas de sécurité éternelle, mais par contre, elle est là. Donc, on va lire notre passage, Romains 5, 1 à 5. « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » On va se courber dans un mot de prière. Père Céleste, on te remercie pour ta parole, Seigneur. Cette parole, Seigneur, qui est si utile, qui est nécessaire à notre vie tous les jours. Et Seigneur, comme qui a été mentionné, parfois, Seigneur, tu nous donnes ce qu'on a de besoin à travers un passage quelconque. Et Père, je voudrais te rendre grâce, Seigneur, que on puisse se fier à toi, que ta parole est juste et qu'elle est bonne, Seigneur, pour nous instruire, pour nous encourager, pour nous éduquer. Et puisses-tu ce matin ouvrir le cœur de chacune des personnes qui est ici présente, Seigneur, afin qu'ils puissent aller puiser cette richesse qui est dans ta parole, Seigneur, et qu'ils puissent l'appliquer dans leur vie de tous les jours. Je te prie ces choses dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Donc, c'est Paul qui écrit l'Épître aux Romains. Et puis, dans le passage, Paul, je vais mettre l'emphase sur le mot « rappel ». Paul nous rappelle cinq choses. Premièrement, c'est que dans ce passage-là, Paul nous rappelle que nous sommes justifiés, que nous avons la paix. Il nous rappelle que nous avons une espérance. Et il nous rappelle aussi qu'on n'est pas à l'abri d'avoir des afflictions. Paul nous rappelle qu'on va avoir des afflictions. Et il nous rappelle aussi qu'on peut se fier à l'amour de Dieu. Donc, on va regarder ces cinq choses. Et puis, en commençant par le premier, c'est que Paul nous rappelle que nous sommes justifiés. On est d'accord pour dire que lorsqu'on éprouve des difficultés, lorsque dans la vie on éprouve des problèmes, on a des problèmes, notre foi, bien, elle peut être ébranlée, même, je dirais, qu'elle pourrait être remise en question. Et puis, la justification, parce que c'est la doctrine de la justification qu'on regarde ici, ce n'est pas nécessairement la première pensée qu'on va avoir dans notre tête. Ce n'est pas la première affaire qui va venir dans la tête, mais on peut se demander ce matin, bien, qu'est-ce que la justification a rapport avec la difficulté? Ceux qui ont étudié l'Épître aux Romains, on sait que les quatre premiers chapitres, Paul, il va parler de tout ce que Dieu a fait pour nous sauver, d'une façon assez particulière. Il parle du fait que devant Dieu, les hommes, nous sommes tous pécheurs, nous sommes coupables pour le mal que nous faisons. Et il n'y a personne qui puisse se donner raison pour toutes ces mauvaises choses qu'on a fait. Donc, selon Paul, à cause de notre péché, il nous dit que nous sommes tous condamnables aux yeux de Dieu. Sans Christ, en vous et moi, il n'y a rien de bon. Et au chapitre 3, Paul dit, « Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Puis un peu plus loin, il va nous dire la phrase que tous on connaît, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Donc, ce que je viens de dire ici, c'est que, qu'est-ce que Paul est en train de dire ici, c'est qu'il n'y a pas personne qui est exempt. On ne peut pas arriver puis montrer du doigt qui que ce soit, puis lui dire, ah ben lui, il est pas mal plus pire que moi. On est tous dans le même bateau. Puis à cause de nos péchés, Paul déclare que nous sommes tous ennemis de Dieu et que nous ne méritons que la mort. Dieu va un jour révéler sa colère contre ceux qui lui ont tourné le dos et poursuivre leur propre chemin. Je dois vous dire que mon message, allé jusqu'à date, n'est pas tellement encourageant. Hein? Mais par contre, l'histoire n'est pas finie. Parce qu'au plein milieu du chapitre 3, au chapitre 21, il y a un « mais ». Et sur ce petit mot, « mais », M-A-I-S, pas « maïs », toute l'histoire du monde va tourner. Okay? Il dit « mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. » On peut s'imaginer que Paul, ici, en train d'écrire sa lettre, il prend une pause pour un instant. Puis là, il est en train, là, il est sur le point d'annoncer la meilleure nouvelle au monde entier. OK? Il dit, mais maintenant, il y a moyen d'être réconcilié avec Dieu. Mais maintenant, notre péché peut être pardonné et nous sommes justifiés. Justifié, ce que ça veut dire tout simplement, c'est que devant Dieu, nous sommes déclarés non coupables. Nous sommes acceptables à Dieu à cause que Jésus a payé le prix sur la croix pour notre péché. Et se rappeler de cela devrait nous apporter un certain réconfort dans les moments difficiles. Donc, se rappeler qu'on a été justifié devrait nous apporter un réconfort. Donc, on n'est plus ennemi et on n'est plus condamnable. Nous sommes maintenant amis, encore mieux, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Donc, question de se réjouir, question d'être réconforté. Donc, je pourrais vous citer d'autres versets, mais je pense qu'on va s'en tenir à ça. Paul nous rappelle que nous sommes justifiés, et parce que nous sommes justifiés, ça ne s'arrête pas là. Il y a quelque chose de bien après. Et la première chose, la chose qu'il y a ensuite, c'est que Paul nous rappelle que nous avons la paix. OK? Dans le monde dans lequel nous vivons, la paix ne nous semble pas une chose qui est réaliste. Et on vit dans un monde qui est terrifiant. On est entouré de violence, de mal, de douleur. Et puis, quand on voit les images à la télé de toutes les choses qui passent, on voit que il y a très peu de paix dans le monde. Dans notre monde, dans notre pays, et dans nos familles, et dans notre Église même, on peut dire. Mais où est la paix? La paix n'est pas juste d'avoir un peu de calme puis de tranquillité. En fait, la paix, c'est l'absence de conflit. Quand on regarde et qu'on analyse ça. Et puis, avant d'être justifié, comme j'ai mentionné tantôt, on n'avait pas la paix avec Dieu. On était ses ennemis. En fait, on était en conflit avec lui. Et puis, tout ce que nous étions faisait partie d'une véritable guerre contre Dieu. Et c'est un petit peu comme David et Goliath, c'est moi, vous, contre Dieu. Donc, je suis content que c'est lui qui a fait les premiers pas pour nous réconcilier. Donc, maintenant, il y a la paix. Il n'y a plus de conflit entre moi et Dieu. Et comme nous le dit 2 Corinthiens 5, 18, « Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. » C'est Dieu qui a fait le premier pas vers moi. Moi, j'étais mort dans mon péché, incapable de faire quoi que ce soit par moi-même. J'étais incapable de faire absolument rien pour résoudre mes problèmes de péché. Mais maintenant, Dieu a fait la paix avec moi. Et c'est bon de se le rappeler, comme Paul le fait dans ce passage-là. Et c'est cette paix qui nous aide dans les circonstances difficiles. C'est cette paix qui va nous donner l'espoir, l'espérance. Donc, on passe à notre prochain item de notre passage et Paul nous rappelle que nous avons une espérance. Mais qu'est-ce que c'est notre espérance? que demain, il va faire plus beau qu'aujourd'hui. Et que dans la semaine qui s'en vient, ben, on va avoir un téléphone d'une vieille tante qui vient de mourir, puis on va avoir un héritage. Que l'espérance que ceux qui achètent des billets de loterie, que vous allez gagner le gros lot. Que tout va aller bien. On a l'espérance qu'on n'aura plus de maladie. Bien, quand on regarde notre passage, c'est que notre espérance, c'est la gloire de Dieu. Et qu'est-ce que ça veut dire exactement? Paul parle de notre avenir. Un jour, on va être avec Dieu pour l'éternité. Puis la parole nous dit que nous allons être glorifiés et que nous allons être à la ressemblance de Jésus. Cool. Hein? Mais qu'est-ce qu'on fait entre-temps? Certains disent que les chrétiens, c'est des personnes qui ne sont pas réalistes, puis ils disent qu'on est tellement préoccupés par les choses du ciel qu'on est bien souvent inutile sur la terre. Et puis ils vont nous accuser de vivre pour la fin des temps, et puis non pas pour aujourd'hui. Et ils ont un petit peu raison. Je me souviens, longtemps passé, les trois mousquetaires, Luc, Marc et moi, fait qu'on se parlait toujours. Puis là, à un moment donné, on avait eu un gros questionnement. Est-ce qu'on devrait prendre des REER? Parce que, qu'est-ce que ça nous donne de faire ça? Le Seigneur va revenir avant qu'on se retire. Mais vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça, OK? Parce que je pense pas que c'est comme ça qu'on va... je pense qu'on a maturé, là, puis maintenant, oui, on sait que le Seigneur va revenir, puis probablement qu'on va voir le retour du Seigneur, mais on doit vivre comme s'il était pour arriver, quand même, être réaliste, là, puis oublier, réaliser là, qu'on est encore sur la terre, puis qu'il y a des gens autour de nous qui périssent. Donc, arrêtez d'avoir la tête dans le ciel, là, puis revenir les deux pieds sur la terre parce qu'on a encore une job à faire. Quand nous sommes accablés par la vie, nous pouvons lever nos yeux vers Dieu et dire, j'ai une espérance. Ce que j'ai ici n'est pas tout. Ce que je souffre ici-bas n'est pas la fin de l'histoire. Mais notre foi, notre espérance, n'est pas un moyen de fuir la réalité. Ne nous réfugions pas dans l'imaginaire. Le christianisme est terre à terre. Et puis, Paul dit au verset 2 du passage que par la foi, nous avons accès à la grâce de Dieu et dans cette grâce, nous demeurons fermes. Donc, pour saisir ce que Paul dit, essayons peut-être de s'imaginer. On va se reporter, disons, dans le temps du Moyen Âge où il y avait des rois qui vivaient dans des châteaux. Et puis, ce roi-là était bien entouré, puis on pouvait difficilement s'approcher du roi, OK? Il était dans son palais, puis il y avait toujours une garde, et puis il y avait souvent des barrières qu'on ne pouvait pas pénétrer. Bien souvent, il mettait un fossé d'eau que n'importe qui pouvait aller, mais c'était à peu près inaccessible, OK? Puis c'était bien défendu par les soldats. Donc, à part de ça, c'est qu'on était simplement des paysans. Donc, qu'est-ce qu'on aurait à faire avec le roi qui était si grand, qui était inaccessible? Donc, si on essaye de comprendre, d'essayons de nous y introduire, il y a des soldats qui gardent, nous empêcher d'approcher avec des armes. Alors, quoi faire? Pour un instant, on peut penser que le fils du roi, bien lui, il est jeune, puis il est peut-être pas sur le même principe que les autres. Puis il sort souvent à l'extérieur, OK? Puis quand il sort, bien, il y aurait peut-être possibilité de se lier d'amitié avec lui. Et puis, en se liant d'amitié avec lui, probablement qu'on pourrait entrer dans le palais, puis il pourrait nous présenter à son père, le roi, qui, s'il le veut. Paul, c'est un petit peu l'image qu'il essaie de nous dépeindre, parce que nous avons accès auprès de Dieu par Jésus, le Fils du roi des rois, qui nous accompagne et qui nous présente à son Père. Et son Père nous accueille. Et il nous accueille même comme si nous étions un de ses enfants. Et on est en sécurité avec lui. Vous savez, quand on regarde des films, des fois, qu'il y a des rois comme ça, je vous dis que même si la personne est venue à bout d'accéder proche du roi, il n'y a pas besoin de faire grand-chose, qu'il va être expulsé, même il peut être mis à mort. Mais ce n'est pas le cas avec Dieu. Parce que Dieu, lui, il ne change pas, puis il est pas inconsistant. Et lorsqu'on regarde la parole ici, qui nous dit « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Et ça, on retrouve ça dans Romains 8, les versets 38 et 39. Notre position est assurée. Donc, on a cette espérance-là, et en fait, cette assurance-là. OK? Donc, on va passer au quatrième item. Et Paul nous dit aussi qu'on ne sera pas épargné, même si on est chrétien, même si on a donné notre vie à Jésus, c'est que nous allons avoir des afflictions. Notre foi est pratique, mais nous gardons un œil sur l'avenir et le ciel, mais nous vivons pleinement dans ce monde présentement. Et oui, nous allons avoir des afflictions. Certains croient que quand ils deviennent chrétiens, bien, tout leur problème va disparaître. Désolé, mais c'est pas vrai. Puis j'ose dire que pour beaucoup, les choses s'empirent. Vous vous en souvenez quand vous avez annoncé à votre famille que vous êtes devenu chrétien? Ben donc, quand vous annoncez à vos amis, on dirait que ça devient pire. On dirait que les afflictions que vous n'aviez pas avant, ben vous en avez des nouvelles. Et puis, en tant que chrétien, on est aussi méprisé par le monde. Tout simplement, c'est que le monde n'aime pas les chrétiens, même il y en a qui les détestent. Et quand on regarde la persécution des chrétiens qui existe encore aujourd'hui, je pense que ce que je vous avance, ce n'est pas une surprise pour vous. Jean 15 nous dit clairement, et ce sont les paroles de Jésus, pas longtemps avant sa crucifixion, au verset 19, il dit « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du monde, du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » Certain que vous vous sentiez encouragé maintenant. Hein? Mais dans le même chapitre de Jean, il dit au verset 20, « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Jésus a souffert et nous souffrirons aussi. Jésus est notre exemple et c'est lui aussi qui nous dit, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Ça, c'est Jean 16, 33. Encore là, il y a l'espérance. Oui, on va souffrir, c'est sûr et certain. Mais il ne faut pas arrêter là. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Donc, en général, les gens, même les chrétiens, pensent que l'affliction, c'est simplement quelque chose que nous devons endurer. On serre les dents, on serre les poings, puis on se dit, ben, tout va aller bien, ça va finir, on va en sortir de ça. Mais Paul nous dit que nos afflictions ne sont pas là simplement pour être endurées. Il dit que nous pouvons nous glorifier de nos afflictions. C'est flyé, hein? Et nous demandons si Paul, il a perdu la tête là, quand il dit une affaire comme ça. Est-ce qu'il s'attend que quand on a des afflictions, on va se mettre à genoux et on va dire... Merci Seigneur, et que nous allons prier. Merci Seigneur, donne-moi en plus. C'est magnifique, merci. Non, je ne pense pas. Il n'y a pas personne qui aime avoir des problèmes. Il n'y a pas personne qui aime des afflictions. On n'est pas, après tout, des masochistes. Hein? Mais on peut voir au-delà de ces problèmes-là, de nos problèmes et de nos afflictions. Nous pouvons voir qu'il y a une raison pour toutes les choses que nous souffrons. Et nous croyons même que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Ceux qu'il a appelés selon son destin. Nous croyons que tout ce qui nous arrive est permis par Dieu, par un Dieu qui est souverain. Et Job a dit dans l'Ancien Testament que nous recevons le bien de Dieu, le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal. Donc, c'est facile à dire, pas facile à vivre. Mais nous pouvons vivre. L'affliction, on vient de mentionner, c'est que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et par la grâce de Dieu, à cause de la certitude de ce qu'il nous réserve pour l'avenir, nous pouvons persévérer. Donc, ne baissons pas les bras, non pas parce que nous sommes forts, non, parce qu'on ne l'est pas, mais parce que lui, il est fort. Celui qui nous tient, celui en qui nous avons mis notre espoir, lui est fort, il est tout puissant. Donc, qu'est-ce que donc la victoire dans l'épreuve? Est-ce que Paul veut dire que nous allons surmonter tout problème et que nous allons toujours réussir? Non. Il y a certaines afflictions qui vont nous suivre jusqu'à la mort. Quelqu'un, même un chrétien qui a un cancer qui n'est pas opérable, c'est comme ça, il va souffrir son cancer jusqu'à la mort. Donc, on n'est pas à l'épreuve de ces choses-là. Et puis, certains même vont avoir à vivre avec des maladies chroniques toute leur vie, jusqu'à la fin du jour. C'est vrai que Dieu est capable d'intervenir et de faire un miracle, mais il est possible aussi que Dieu puisse revenir aussi, qu'on n'ait pas besoin de vivre aussi longtemps. Mais il peut venir nous chercher avant qu'on ne meure. Mais je vais devoir vivre comme je suis maintenant pour pas mal de temps encore. Ça c'est une possibilité. Donc, où est la victoire? La victoire se trouve dans le fait qu'au milieu des difficultés, comme nous persévérons, nous devenons de plus en plus conformes à l'image de Christ. C'est-à-dire que nous serons de plus en plus comme lui. Par nos afflictions, ben, nous allons devenir plus matures, nous mûrissons. Et nous allons voir que la main de Dieu, elle est là. Okay? Que nous savons qu'il œuvre en nous à travers les afflictions, à travers nos problèmes. Donc, nous avons l'assurance que notre foi n'est pas que notre foi ne soit pas en vain et que la gloire à venir n'est pas une illusion. Et Paul a dit aux Philippiens, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » En fait, Paul est en train de parler de notre caractère. Qu'est-ce que nous sommes en train de devenir? Est-ce que nous sommes amers à cause que nous souffrons? Est-ce que nous sommes en colère? Et si nous sommes en colère, est-ce que nous sommes en colère contre Dieu, contre le monde, contre les autres? Ou est-ce que nous acceptons tout simplement ce qui nous arrive? On ne peut pas accepter activement les choses, ces choses-là, disant « Seigneur, travaille en moi, transforme-moi selon ta volonté pour ta gloire ». Ce n'est pas une chose qui est facile à dire. Parce que quand nous traversons des épreuves, nous grandissons si nous laissons Dieu agir en nous. Et puis à cause de cela, moi je peux parler pour moi-même, nous sommes mieux équipés pour aider les autres. Et on n'est pas, nous autres, après qu'on a passé à travers une certaine épreuve, on n'est pas pour aller voir quelqu'un, allez, moi aussi j'ai eu ce problème-là, là, puis... Tu vas voir, un jour, tu vas t'en sortir, ça va aller bien. Non, Paul, ici, ce qu'il est en train de nous dire, c'est qu'il est en train de nous... Il nous fait passer à travers des épreuves pour que nous puissions avoir de la compassion envers ceux qui souffrent. Et puis, il va être plus facile de compatir avec un autre quand on a vécu le même genre de choses. Et puis, moi, j'ai passé en 97... 98, j'ai passé à travers d'un burn-out que j'ai eu, dépression que j'ai eu besoin de prendre du temps, du congé de travail. Puis quand je regarde aujourd'hui, à ces moments-là, je demandais au Seigneur parce que le monde me disait, ben, tu sais, pourquoi que tu es comme ça, tu es bien, tu as une bonne famille, tu as le Seigneur, tu as ci, tu as ça. Mais non, je passais à travers de ça, puis c'était misérable. Puis des fois, je souhaitais que Dieu me coupe une jambe, je dis au moins le monde va voir pourquoi je souffre. Mais quand on souffre à l'intérieur, c'est tout aussi pénible, c'est pas facile. Mais savez-vous, le Seigneur m'a fait passer à travers, puis aujourd'hui, quand je vois qu'une personne qui est en détresse, quand qui vit, passe à travers d'un temps difficile, qui est en travers d'une dépression, ben, je suis plus compatissant. Et puis, au lieu d'arriver puis dire, de lui offrir plutôt de la sympathie, ben, même pas lui dire, je sais ce que tu souffres, je sais ce que tu veux. Je pense que des fois, tout ce que les gens ont besoin d'entendre, c'est que, puis je l'ai eu de mes meilleurs amis, ça, juste entendre dire, je suis là. C'est tout ce que ça prend. Et puis, si Dieu vous fait passer à travers de tout ça, puis qu'un jour, vous pouvez dire à une personne, à qui vous êtes proche, qui souffre, je suis là. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que ça peut lui apporter. Donc, on a des afflictions. Dieu nous a dit qu'on n'était pas pour être épargné des souffrances, des persécutions même. Mais il y a une raison pour ça. Et puis, on doit se glorifier. Dieu va nous glorifier dans nos afflictions. Donc, notre dernier item dans notre passage, c'est que nous connaissons l'amour. Et puis, lorsqu'on regarde le verset 5 de notre passage, encore une fois, il est sujet d'espérance. C'est que dans la souffrance, nous sommes assurés de l'amour de Dieu. Beaucoup de gens diraient que c'est la souffrance qui les fait douter. Puis Paul, lui, voit les choses autrement. Il nous dit que l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, quand nous mettons notre foi en Dieu, nous nous confions à une personne la plus fiable de l'univers entier, notre Dieu Tout-Puissant. Nous ne serons jamais déçus parce que notre espérance est ancrée dans l'amour de Dieu. C'est Dieu lui-même qui dit à plusieurs reprises dans sa parole, « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Ça, c'est de l'amour. Dans le monde, on va être déçus. Dans l'Église, on va être déçus. Dans nos familles, même avec ceux qui nous sont les plus chers, nous allons connaître des déceptions. Mais avec Dieu, ça n'arrivera jamais. Son amour est certain et nous connaissons son amour pour nous, qu'il a pour nous, par la présence du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, qui est celui par qui nous pouvons crier « Abba, Père », selon Romains 8, et « Abba, Papa », c'est le nom le plus intime qu'un enfant peut crier, puisse avoir pour son père. C'est le nom que nous pouvons crier au milieu de la détresse et la souffrance. Certains que notre Dieu nous entend et que son amour est toujours là. Son amour est toujours là. Donc, en conclusion, je pense que je vous ai démontré que la vie n'est pas toujours facile. OK? C'est pas toujours une partie de plaisir. On n'est pas toujours à notre aise, mais notre Dieu est un Dieu fidèle. Et puis, par la force qu'il nous donne, nous pouvons persévérer dans l'épreuve. Et par nos épreuves, nous pouvons grandir et nous sommes assurés de la présence de Dieu avec nous. On a un avenir. Et cet avenir-là, regardons-le d'un nouvel œil, OK? Et arrêtons pas de nous rappeler la parole de Dieu. Et puis un jour, la souffrance, elle va voir sa fin et nous allons avoir l'éternité, une éternité dans la joie avec notre Seigneur. Et jusqu'à ce qu'il revienne, demeurons fermes dans son amour. Donc, comme le passage nous rappelle, c'est que lorsqu'on va passer des temps difficiles, donc, c'est la parole qui va nous rassurer. Et comme le passage que nous venons de voir, essayons de nous rappeler que, premièrement, nous sommes justifiés. Essayons de nous rappeler que nous avons la paix, que nous avons une espérance. Et il faut se rappeler aussi que s'il y a des afflictions qui arrivent, il ne faut pas rester surpris. Dieu nous le rappelle dans sa parole, qu'on va l'avoir, et que nous connaissons son amour, l'amour de Dieu. Amen.